Parlons sport. Parlons sport. Une émission animée par Gilles Bombard.
Enfin, la décima pour le 15 de France qui remporte le tournoi des 6 nations suite à la victoire contre les Anglais 25-13. Grand Chelem à la clé, le 10e de son histoire. Bienvenue dans Parlons Sport et pour m'accompagner dans ce moment euphorique pour le rugby français, le président du Plaisir Rugby Club, Thierry Lamandé. Bonjour Thierry.
Bonjour à vous Gilles.
Avant de revenir sur la saison du Plaisir Rugby Club en Fédéral 2 et à l'honneur dans l'émission, nous allons faire le bilan du 6 Nations qui s'achève glorieusement pour le 15 de France qui a battu tous ses adversaires au cours de ce tournoi, synonyme de Grand Chelem. Président, première question que je vous pose, c'est le premier Grand Chelem depuis 12 ans pour les Bleus. On a une longue traversée du désert depuis, on se souvient, le tournoi de 2013, on avait terminé dernier, pas très loin de la cuillère de bois. On a changé plusieurs fois de sélectionneur entre-temps. Et depuis 2020, eh bien, le 15 de France est redevenu compétitif jusqu'à ce sacre. Quels ont été, selon vous, Président, les ingrédients du retour du 15 de France au plus haut niveau?
Bah écoutez, je pense que c'est vraiment la création de ce nouveau staff et sous la ferrure de Fabien Galthié qui a quand même amené toute cette équipe de plus haut niveau. Hein. Je pense que le staff également a été très bien constitué. On voit qu'il n'y a pas de point faible dans le staff. Et puis, il y a eu aussi une démultiplication des intervenants tout au long de l'activité du rugby. Quoi, quand on voit la progression des staffs il y a 10 ans et maintenant, ça n'a rien à voir à ce niveau-là professionnel.
Oui, mais alors, en tant que dirigeant, votre regard sur la réussite du sélectionneur, quelle est selon vous justement la part du sélectionneur dans le cadre d'une réussite collective? Alors, quand je dis sélectionneur, je parle de Fabien Galthié et puis de son staff dans son ensemble, hein, tel que vous l'évoquiez. Est-ce qu'on aurait pu atteindre ce niveau de performance avec un autre staff? Parce que pour le coup, on constate que depuis 2020, et Fabien Galthié est arrivé en 2019, on le rappelle, dans cette équipe, il y a clairement un avant et un après Fabien Galthié au niveau du 15 de France et surtout au niveau de ses résultats.
Je pense que la rigueur qui a été amenée par Fabien Galthié avec une intensité aussi dans les entraînements a fait que certains joueurs n'ont pas suivi. Hein. On voit que c'est surtout une jeune génération de joueurs très malléables, à mon sens, hein, qui ont été, entre autres, deux fois champions des moins de 20 ans. Donc puis bon, la formation aussi pour les GIF là, sur le top 14 a permis de faire jouer beaucoup de jeunes. Hein. Et puis, un des événements aussi importants, je pense que c'est le fait que les jeunes soient maintenant restés dans les clubs au niveau des centres de formation et non plus dans des centres FFR. Donc là, ils sont au vu et au vu utilisés par les entraîneurs des clubs professionnels top 14 et voire Pro D2 toute la semaine. Et donc, je pense que ces entraîneurs de clubs de top 14 n'hésitent pas à les faire revenir dans les feuilles de match petit à petit parce qu'ils les ont sous les yeux toute la semaine, quoi, dans leur semaine de travail. Moi, je pense que c'est aussi ça, c'est un événement majeur dans la réussite de ces jeunes. Et après, il y a aussi tout le professionnalisme que Fabien Galthié et ses autres entraîneurs mettent hein, dans les séances apparemment à haute intensité.
Ouais, bah alors dans ces séances à haute intensité, ces séances-là, elles sont notamment dirigées par Thibaut Giroux, le directeur de la performance. C'est comme ça qu'il a été appelé lorsqu'il a été intronisé au sein du staff. Je me souviens que dans ses interviews, il le disait, lui, il est à la recherche des gains marginaux. Il recherche vraiment les stats chez les joueurs. Donc, course à haute intensité, augmenter le temps d'activité dans le jeu, le temps de sprint sur les matchs. Donc, c'est ça aujourd'hui qui fait la différence, selon vous, entre une nation qui a les armes pour aller chercher tous les titres internationaux et une équipe nationale bah justement qui végète dans les 4, 5, 6e place. C'était notre cas, on le rappelle, il y a quelques années.
Je pense qu'il faut, on le voit bien, hein. Bon, il y a leur jeu là, de dépossession, donc il y a eu une analyse de l'état de fatigue des joueurs en fonction de leur jeu, de la forme de jeu qu'ils produisaient. On voit que maintenant, donc, c'est un peu un gain de terrain par moment, mais après, ce qui est à noter, c'est que dès qu'on est dans les 40 mètres adverses, les phases à très haute intensité s'enchaînent et à chaque fois, on voit les essais. C'est pas sur un jeu à une passe, quoi. C'est vraiment très complet et vraiment très rapide, performant, très physique. Je pense que là, c'est les bénéfices qu'ils tirent des entraînements. Hein. Donc, on voit que c'est plus le même rythme dès qu'on est dans les 30-40 derniers mètres.
Hein. Alors, si on fait le bilan de ce tournoi destination concrètement, donc l'équipe de France a battu tout le monde, on le rappelle, et quand on bat tout le monde, eh bien, ça signifie qu'on fait le grand chelem dans ce tournoi. Donc, c'est le 10e de l'histoire du 15 de France. On a senti vraiment que l'équipe de France maîtriser son rugby. Je voudrais savoir, selon vous, quelle est la force particulière aujourd'hui du 15 de France et si elle possède encore des faiblesses dans le jeu.
Écoutez, on a pu voir que contre le Pays de Galles, au niveau du jeu au pied, c'était plutôt Bigard, là, le 10 adverse qui a mené la danse, à mon sens. Après, il y a quand même beaucoup de secteurs où on est performant. Hein, donc, contre l'Angleterre, je pense que s'il y a deux trois fautes de main en moins avec les actions qu'on avait créées, on aurait pu breaker beaucoup plus tôt dans la partie, surtout en première mi-temps.
Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même eu du déchet. Mais alors, de manière générale, quand même, ce qu'on peut dire depuis, surtout sur les tournois 2020-2021, c'est que le 15 de France commençait très bien ses matchs et puis manquait de maîtrise sur certaines séquences où l'adversaire avait le ballon, l'équipe de France subissait et se faisait souvent rattraper au score. Et parfois se faisait crucifier. Et j'ai encore le souvenir là de ce drop de Sexton avec l'Irlande. Je ne sais plus si c'était il y a 2 ou 3 ans.
Il y a 2 ans, parce que j'y étais, moi.
Ah,
Stade de France, oui. T'es resté bouche bée sur l'action.
Fameux drop sous la pluie, si ma mémoire est bonne.
Il y a surtout qui est arrivé à partir des 22 mètres. Ils ont construit brillamment leur remontée de terrain jusqu'aux 40 mètres adverses français. Ils nous ont crucifiés sur ce drop, c'est clair.
Eh bien, ces désillusions-là, on ne les a plus vues au cours de ces tournois.
Ben, je pense que là, c'est aussi lié à la réflexion de Fabien Galthié et de son staff. C'est-à-dire que maintenant, ils intègrent ce qu'ils appellent maintenant les finisseurs. Et ils n'hésitent pas à faire sortir plutôt les titulaires de base. Et ce qui fait que dans les 30 dernières minutes, quand vous avez 6 avant et juste 2-3 quarts, donc 6 avant sur 8 avant, ça fait quand même un sacré changement. C'est un deuxième paquet quoi, d'avant. Donc, et en plus, les gens sont. On a une richesse au poste qui est assez intéressante. Donc, on voit bien que l'intensité ne faiblit plus. Quoi, donc, la maîtrise reste avec la charnière aussi. Sachant qu'on a quand même la charnière de joueurs exceptionnels également. Donc, tout est sur des bonnes bases. Quoi.
Alors, sur le plan des individualités, est-ce que, selon vous, président, il y a un joueur qu'on pourrait placer au-dessus de la mêlée sur ce tournoi ? Parce que, de manière générale, on pourrait jouer la simplicité en disant bah, « Écoutez, Antoine Dupont, voilà, meilleur joueur du monde, donc forcément, il est au-dessus. » Mais là, sur ces tournois, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs que vous auriez envie de mettre un peu à part ? Qui vous a fait plaisir là, durant ces matchs ?
Bah, vous avez toujours l'axe 2-8-9-10. Hein, et je trouve que le 15 est un peu moins performant. Bon, après, il a surtout pas mal de points au pied, mais sur ces 2-8-9-10, vous avez quand même une épine dorsale qui est très solide. Hein. D'ailleurs, on voit que l'équipe ne change très peu au niveau des lancements de match. Quoi. C'est toujours le même. C'est un groupe assez. Je crois que c'est 25 ou 28 joueurs qui ont été utilisés. Donc,
ouais, un peu moins de rotation, effectivement. Mais alors, sur les ailes, on pourra souligner bah, notamment les prestations remarquables de Gavin Villière, le Toulonnais, qui s'est intégré un peu à la dernière minute hein, dans ce 15 de France, à l'instar de Melvin Jaminet, donc le 15, qui joue à l'arrière, qui est apparu comme ça de manière un peu hasardeuse hein, en équipe de France, avec les seconds couteaux, on va dire, dans un premier temps. Il s'est bien révélé, je crois que c'était sur une série de test-match, je ne sais plus contre qui, ouais, contre l'Australie. Il avait fait un brillant deuxième match de mémoire et bah, il s'est petit à petit installé comme titulaire. Pour un premier tournoi des Six Nations, ben je lui tire mon chapeau, même s'il a été un peu fébrile au pied, notamment contre l'Angleterre et contre le Pays de Galles, mais ça reste quand même quelqu'un sur qui on peut compter à l'arrière.
Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, Toulouse s'est pas trompé. Je crois qu'ils
Avec
veulent le
le piste.
recruter, d'ailleurs.
L'exercice là que je demande de faire sera un peu difficile. Pronostic pour la Coupe du Monde 2023, quand on sait que dans le même temps, du côté des All Blacks, ça va pas fort. La Nouvelle-Zélande ne montre plus cette impression d'invincibilité qui la caractérise à l'approche de chaque Coupe du Monde. On se souvient que lors de la dernière Coupe du Monde, ça se finit sur une finale Angleterre archi favorite parce qu'elle produisait du jeu. Et qui a le même sélectionneur et qui est en déclin face à l'Afrique du Sud, bon, qui n'était pas forcément attendu pour se hisser jusqu'à la finale et puis la remporter, qui bâtissait son jeu encore un peu à l'ancienne, un jeu de percussion qui jouait l'épreuve de force. Là, on a quand même au sein de l'équipe de France, à mon avis, toutes les qualités pour déjouer tous les styles de rugby, à condition que la Nouvelle-Zélande ne soit pas l'ogre qu'elle est habituellement.
Après, la Nouvelle-Zélande, je pense qu'ils seront toujours présents. Hein. Ils ont eu un, je dirais, ils ont été pris par les Anglais. Si je ne me trompe pas, c'est bien les Anglais qui les ont sortis. Pour moi, ils seront présents. Hein. Donc, mais bon, je pense que l'équipe de France, en plus, c'est à la 2023, c'est en France. C'est quand même une motivation supplémentaire. Pour moi, je les vois au moins arriver en finale. Ce serait une désillusion s'ils n'étaient pas en finale. Hein.
Et puis, cette équipe de France a montré que sous la pression, elle ne craquait pas.
C'est ça.
Bon, eh bien, écoute, président Thierry Lamandé, on va parler de votre club maintenant, le Plaisir Rugby Club, qui joue, comme on le disait dans l'introduction, en Fédéral 2. Alors, vous restez sur 4 victoires d'affilée, vous êtes en milieu de tableau. Comment s'est déroulée cette saison? Est-ce qu'elle est conforme à vos attentes, notamment lorsqu'on voit que vous êtes capable d'aligner comme ça 4 victoires de rang?
Bah écoutez, on aligne 4 victoires de rang parce qu'on a eu aussi 4 défaites de rang. Donc voilà, je crois qu'on est au milieu de tableau, on est 7e actuellement à 1 point de la 6e place tenue par nos amis de l'Heureux, là, près de Rennes. Non, la saison est belle parce que c'est le meilleur classement qu'on ait eu depuis les 5 années qu'on pratique, donc, sachant que les deux dernières années ont été un peu frustrantes avec cette histoire de Covid, là. Non, non, le groupe est, je dirais, est à sa place, là, et bon, à part Nantes qui est vraiment au-dessus, parce que là, c'est l'équipe professionnelle, hein, ils ont 4 fois notre budget pour rien qu'une équipe, 38 joueurs pour l'équipe première, donc c'est pas du tout la même structure en face. Mais sur les autres, on est capable de battre presque tout le monde, hein, c'est dans un bon jour. Puis quand les matchs qu'on a perdus, on n'est pas très loin, hein, on est à 7, 8 points des fois. On a dû louper quelques bonus qui nous empêchent d'être 6e, mais on n'a pas de. Je crois qu'on doit avoir Nantes qui nous a fait le plus d'écart, quoi, ce qui est un peu normal. Hein.
À long terme, enfin à moyen long terme, l'objectif du club, c'est quand même d'avoir une équipe capable de monter en Fédéral 1, ou alors il y a des obstacles qui font qu'aujourd'hui, pour le Plaisir Rugby Club, être en Fédéral 2, c'est déjà une performance remarquable.
Disons qu'avec nos moyens, parce qu'on n'est pas quand même très très riche, hein. On est un club qui surtout formateur, hein, donc on est même sorti premier Île-de-France là, sur le critère club formateur, avec aussi bien les garçons que les filles, et puis les sélectionnés dans les jeunes. Sur la base de l'équipe première, on est quand même, et de la réserve, on est, je pense, à 60-65% de joueurs d'école de rugby, des cadets juniors, hein, qui sont sortis et qui viennent rejoindre l'équipe 1. C'est pour ça qu'on essaie de renforcer notre formation. On a mis en place cette année un centre de formation, d'entraînement, pardon, qui devrait être présenté à la Fédération française de rugby en septembre-octobre pour être labellisé. Actuellement, nous avons 18 jeunes qui ont intégré ce centre de formation et qui. 15 garçons et 3 filles qui suivent donc des entraînements en plus de leur collectif individuel, musculation, énergétique, il y a tout un jeu au poste, et ça c'est très intéressant parce qu'on voit qu'ils sont tous très motivés et qu'ils sont très présents. Donc, ce qui fait qu'on a été retenu pour aller aussi au Stade de France. On avait 6 jeunes du centre de formation, d'entraînement, pardon, qui sont allés au Stade de France, invités par la Ligue sur notre positionnement de premier club formateur Île-de-France.
Oui, bah alors effectivement, vous l'avez dit Thierry, vous êtes dans les meilleurs clubs et même le club numéro un formateur en Ile-de-France. Alors qu'est-ce que ça signifie pour les jeunes? Est-ce que ça permet à des jeunes d'autres équipes alentours de plaisir de se dire ah bah ce serait quand même pas mal d'aller là-bas? Est-ce que ça facilite les relations ensuite avec d'autres clubs situés aux échelons supérieurs pour pouvoir garder un œil justement sur les futures pépites? Est-ce que ça ouvre des portes supplémentaires pour le club?
Et ben voilà, on voit que sur le centre d'entraînement, on a aussi des gens qui peuvent venir des clubs aux alentours, hein. C'est d'ailleurs dans le cahier des charges des centres d'entraînement de pouvoir accueillir des joueurs d'autres clubs. Donc, on peut aussi proposer des doubles licences, on le fait déjà sur certains jeunes, hein. On a aussi, dans l'autre sens, vers l'élite, on a des jeunes qui sont en double licence avec le Stade français cette année, et Massy. Donc ça permet aux jeunes dans les deux structures et puis de rester quand même avec leur club formateur, parce qu'on voit bien que sur le nombre, il y en a quelques-uns qui perceront le plus haut niveau. Donc il ne faut pas qu'ils soient coupés de leur club formateur. Et je pense que on doit signer très prochainement une convention avec le Stade français, justement, pour suivre aussi bien les développements des jeunes au niveau sportif et aussi au niveau des études. C'est ce qu'on fait également dans notre centre d'entraînement. On a une personne qui suit les jeunes sur le plan scolaire et qui est en relation avec les profs principaux de chaque jeune et avec les parents pour le suivi scolaire.
Alors justement, pour ces jeunes qui veulent rejoindre un club de rugby, quelle est la voie la plus facile pour le club de se faire connaître? Est-ce qu'on attend à chaque fois le forum des associations à la rentrée ou alors est-ce qu'on va démarcher les écoles pour faire des partenariats, pour mettre à disposition des terrains, de manière à ce que le rugby soit un peu plus mis en avant par rapport à d'autres sports qui attirent plus de licenciés?
Nous, à Plaisir, on a un directeur sportif donc à plein temps hein, sur le club, qui est Sébastien Rogali, vous connaissez. Sébastien, dans ses missions sur le périmètre des villes voisines de Plaisir, parce que la ville de Plaisir est très bien structurée, ils ont 9 éducateurs sportifs, dont des jeunes qui font des actions dans les écoles primaires au niveau du rugby. Hein. Par contre, sur les Clayes-sous-Bois, sur Benne, sur Villiers-Saint-Frédéric, Sébastien a des actions dans le monde scolaire. Hein. L'an dernier, à Villiers-Saint-Frédéric, on a fait toutes les classes de primaire, ce qui nous a fait ramener aussi garçons et filles à l'école de rugby. Donc, et on a des actions également au niveau du collège Jean Villard, là, qui vont démarrer avec tous les 6e, 5e, toutes les classes. Comme on a également, on apporte un soutien à la section sportive du collège Guillaume Apollinaire, dont les deux profs sont également entraîneurs au club de plaisir.
Ouais, donc tout ça est
Il y a un
assez
maillage.
bien organisé finalement.
Il y a un maillage, oui, c'est sûr.
Oui. Est-ce que vous savez aujourd'hui auprès de quel joueur les jeunes s'identifient-ils? Est-ce qu'ils ont une idole? J'imagine qu'à une certaine époque, il y a 20 ans, les jeunes s'identifiaient à Michalak, par exemple. Qu'en est-il aujourd'hui?
Écoutez, je ne les interroge pas tout le temps, mais je pense qu'effectivement, les M'Tamak ou Dupont, surtout les joueurs de trois quarts, hein, les penauds, ceux qui brillent derrière, donc qui les attirent, je pense.
Ouais, vous constatez ça auprès des jeunes, lorsqu'ils entrent dans un club, ils se disent, ah bah tiens, moi je joue à la mêlée, ou alors je veux être à l'ouverture, ou bien sur une aile. Comment ça se passe?
Non, je pense que c'est vraiment par rapport à leur qualité que bon, les entraîneurs les guident sur les. De toute façon, l'école de rugby jusqu'en benjamin, c'est assez mixte. Hein. Ils peuvent aussi bien évoluer devant que derrière, sauf s'ils ont vraiment un déficit important de physique. Mais c'est vraiment à partir de minime où ça se structure dans les positions par rapport à du jeu à 15, quoi. C'est là où on les voit mûrir. Moi, je ne suis pas entraîneur, hein, donc je ne sais pas trop les désiderata de chacun, mais généralement, je vois que les éducateurs fonctionne en groupe, il y a tout un tas d'exercices, aussi bien pour avant trois quarts, donc tout le monde y passe, et je pense que ça, il faut structurer le jeune, quoi. Hein, ça, aussi bien faire une passe sur un pas que aller droit, percussion. Il y a quand même beaucoup maintenant d'exercices d'évitement. Hein, on retrouve une intelligence du joueur avec des séquences de toucher, de choses comme ça, d'apprentissage au début. Donc, bon, là, les jeunes ont un peu perdu sur les deux dernières années. Là, il y a quand même tout un apprentissage du contact et du plaquage à remettre en place. Hein. C'est ce qui se fait. Hein, donc, avec le Covid qui a quand même évité toutes ces phases de contact. Et bon, ça va revenir, je ne suis pas inquiet. On a en plus de bons résultats là, sur les minimes. Là, ils sont requalifiés en A. Là, ils ont juste perdu contre le Racing cette année. Donc, c'est pas mal, quoi.
Et pour être complet sur le Plaisir Rugby Club, quelques mots tout de même sur les féminines. Senior, vous avez là aussi de beaux projets pour développer le rugby féminin dans le club.
Voilà. Bah, disons qu'on s'appuie sur… on a des millimètres donc, qui sont surtout à la base venus par notre entente avec le Collège Guillaume Apollinaire au niveau de la section rugby hein, sur les filles. 6e, 5e, ça nous amène pas mal de filles. Je crois que l'effectif doit être à peu près d'une vingtaine. Et on a également un groupe cadette, moins de 18 ans, donc je crois que c'est une quinzaine de filles. Ils se défendent bien, je crois que pour l'instant, elles ont dû encaisser deux essais sur tous les matchs qu'elles ont pratiqués, mais avec des scores un peu trop larges, je trouve. Donc toutes ces filles arrivent à maturité et on a également lancé cette année une entente avec le club de Vélizy pour jouer à 10, parce que c'est des effectifs. Pour l'instant, on doit avoir 6-7 seniors féminines, avec donc, je pense, l'année prochaine, un renforcement par la montée en âge de nos cadettes, qui passeront donc plus de 18 ans. Et là, l'idée, c'est aussi de solidifier cette équipe féminine senior. Quoi. En plus, on a dans toutes les catégories de l'école de rugby, je crois qu'on a un poussin, on doit avoir trois poussines. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on parle. On a des filles dans toutes les catégories et en plus, les cadettes ont intégré l'encadrement dans chaque catégorie de l'école de rugby. Donc, ça permet aussi de mieux intégrer les filles, les fillettes dans le club, quoi, dans chaque catégorie.
En tout cas, le rugby féminin qui se développe à plaisir et un peu partout, ça fait. C'est quand même un motif de satisfaction. Ça fait plaisir, je ne voulais pas être trop redondant. On rappelle, Thierry, pour l'équipe senior, que bientôt vous allez affronter la CBB et qu'on aura très bientôt également le 3 avril la réception du leader Nantes. Ça se passera dans votre stade.
Tout à fait, Robert Baron, donc c'est le dimanche 3 avril. Et à l'occasion, donc, on fait un repas d'avant-match avec tous les partenaires et puis les gens de la mairie. On a Madame le maire, on a l'adjoint au maire, les sports. Donc, ça va être, je pense, on aurait été entre 150 et 200 personnes. C'est ouvert à tous nos supporters également. Hein.
Le 3 avril à 15h au stade de Robert Baran. Thierry Lamandé, merci d'avoir répondu aux questions de Parlons Sport.
Merci à vous de nous avoir invités.
Nous refermons ce podcast. Retrouvez-nous chaque semaine dans Parlons Sport en audio sur les réseaux sociaux et à la radio.